Brasil Alto Astral sur Aligre FM, toujours à Rio de Janeiro. Ça n'est pas désagréable. On est aujourd'hui le 14 décembre, on est dimanche. Et je suis en compagnie de Pedro Armando de Almeida Magalhães. Bonjour Pedro.
Bonjour Gilles.
Vous êtes un... Est-ce que je peux dire que vous êtes un Brésilien érudit avec un lien privilégié avec la France?
Oui, c'est possible.
Vous n'êtes pas que professeur de français?
Non.
Quel est... Alors, vous êtes professeur de français, mais vous êtes aussi responsable d'une association des professeurs de français qui regroupe plusieurs membres.
Oui, aussi, oui, en effet, oui.
Ça, c'est votre initiative personnelle d'avoir pris la tête de cette association en plus de votre charge de professeur?
Oui, oui. En fait, je n'ai pas pensé prendre cette charge-là au début. Moi, je croyais que j'allais tout simplement faire des recherches dans le domaine de la littérature, mais finalement, il y a eu un moment où j'ai remarqué que ce serait une chose à faire. Donc, j'ai commencé à travailler pour l'association, d'abord pour l'association des professeurs de français de l'État de Rio.
D'accord.
Et je suis devenu le président. Je ne voulais pas être le président, mais j'étais le vice-président, mais la présidente, elle a renoncé. Donc c'était bizarre parce que je n'avais pas l'intention vraiment d'être à la tête d'une association. Et puis, à un moment donné, on m'a invité à intégrer le bureau de la Fédération brésilienne des professeurs de français.
D'accord.
Donc, en tant que premier secrétaire. Et donc, je travaillais en tant que premier secrétaire. C'est un travail bénévole. C'est du bénévolat. Et puis, après, on m'a invité à devenir président.
Donc, c'est souvent comme ça, hein, Pedro.
C'est un peu bizarre. Et je me suis aperçu que... ça marchait.
Alors, quelle est précisément la vocation de cette association?
En fait, c'est une association, la fédération, elle regroupe 21 associations dans le pays. Et la vocation, c'est de dialoguer avec l'ambassade de France. Donc, on dialogue avec l'ambassade de France et avec aussi
ouais.
Votre pays francophone.
Ah oui.
Mais surtout avec la France.
Et est-ce que, quand vous parlez avec l'ambassade de Brasilia, vous obtenez une aide financière qui permet...
Oui, bien sûr. Oui. Donc, en fait, c'est un partenariat très important pour nous parce que ça renforce l'importance des enseignants de français dans le pays. Donc, il y a aussi la place du français dans le pays. Parce que, vous savez, on vit une époque où on a tendance à privilégier l'anglais comme la seule langue à être enseignée dans les écoles.
Le français est en déclin dans le monde. C'est pas un déclin brutal, mais
Oui, mais c'est bizarre quand on pense que le pays, il est très grand. Notre pays, c'est comme un continent.
Donc, le Brésil, oui.
Et c'est étrange parce qu'il y a des spécificités, par exemple, dans l'état de l'Amapá. Et dans l'État...
En Amazonie?
Oui, en Amazonie, il y a la frontière avec la France.
Hein, avec la Guyane.
La plus longue frontière.
Oui, hein,
donc, et on a besoin des gens qui parlent le français là-bas. Et aussi, dans l'État des Rio, il y a des échanges. Il y a aussi des...
Alors, c'est vrai ce que vous dites, Pedro.
Oui.
Dans l'État de Rio, on peut même dire que la France, au début du XXe siècle ou à la fin du XIXe siècle, avait une influence.
Oui.
Rio était une ville un petit peu inspirée de Paris. Oui. Et il paraît que ça agaçait même un petit peu les Portugais. Ils disaient, oui, alors nous, ça veut dire qu'on est transparent. C'est Paris qui fait rêver les Carioca ou...
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Cette relation, elle est longue parce que les Français aussi ont essayé de fonder une colonie ici, dans la ville de Rio.
Alors ça, c'était il y a
donc,
ça s'est très bien terminé. Hein?
Oui, voilà. Mais de toute façon, il y a des traces qu'on peut voir de partout, même dans l'état du Maranhão, par exemple. Il y a...
En nord-est.
Donc,
il y a la ville de Saint-Louis.
Oui, exactement. La ville de Saint-Louis. Et on voit ça un peu partout.
C'était le roi, ça devait être Louis XV, non? Louis XV?
J'ai l'impression. C'était Louis XV.
Alors, oui. Pedro, vous avez évoqué cette expérience.
Avant.
Ou avant?
Avant.
On va demander à Google.
Je crois que c'est avant.
Google,
alors. Je crois que c'est le 16e siècle.
Ah, c'est possible.
Ouais. D'autant que il y a Les Cannibales. Les Cannibales, c'est un texte de Montaigne où il raconte la rencontre avec un indigène brésilien autochtone. Et c'est un texte important, n'est-ce pas, de Michel de Montaigne.
C'est marrant, Pedro, parce que il y a peut-être 2 semaines, j'ai fait une interview d'une chanteuse, poète, metteur en scène, guitariste, comédienne, compositrice, enfin une femme assez incroyable qui s'appelle Beatriz Azevedo, et elle m'a parlé aussi de Michel de Montaigne. Et je me dis, là j'ai quand même des invités de tout premier plan, je suis très flatté, Pedro Armand de Almeida. C'est pas tous les Brésiliens qui vont citer Michel de Montaigne. Alors, c'était intéressant ce que vous disiez. Est-ce que vous voulez nous dire un petit mot justement sur cette expérience d'occupation, cette expérience de création de la France antarctique, inspirée par Nicolas de Villegagnon, qui, comme je le disais, c'est pas très bien terminé.
Oui, je ne veux pas dire grand-chose parce que je ne suis pas spécialiste.
Non, mais c'est juste pour expliquer pour les auditeurs.
Oui, mais en fait, il y a eu cette invasion et on a essayé de créer une colonie française au Brésil, disons. Et, mais ça n'a pas marché. Les Portugais les ont expulsés.
Ah, on s'est fait chasser.
Ah, oui, voilà. Il y a eu ça. Et donc, mais on a gardé des traces. Et puis, plus tard, il y aura la mission française, n'est-ce pas, beaucoup plus tard. Et ça, c'est au...
Dans le sud du Brésil?
Non, ici, parce que le Rio était la capitale à l'époque. Ouais. Donc, c'était quand le roi... Jean VI, il est arrivé au Brésil, oui, parce que voilà, il a eu bien sûr Napoléon qui l'a chassé du Portugal.
Ouais.
Donc il a dû venir s'installer au Brésil. Donc,
un peu précipitamment, le roi du Portugal a dû fuir.
Il a dû fuir en bateau. Voilà, donc il a donc c'est-à-dire que le Brésil est devenu la le centre de l'empire portugais. Donc, on est devenu une sorte de... C'est intéressant parce que le Brésil est devenu le centre de l'empire.
Oui, et Salvador est devenu la capitale du Portugal. C'était un fait complètement...
Oui, ça, c'était avant... Non, ça, c'était avant. Que la capitale Salvador, c'était avant cet événement. Et oui, avec Don Juan VI, la capitale était déjà Rio.
Ah, d'accord.
Donc, c'était 1808, si je ne me trompe pas.
Il me semble que vous avez raison, Pedro, oui, c'est ça.
1808.
D'accord.
Donc, il est...
Mais ce n'était pas Pedro Primero, c'était pas...
Non, c'est son fils. Ah, Primero, oui. Donc, après, il y a eu donc, Pedro Primero qui a décidé de... Bon, il y a eu le Brésil est devenu indépendant grâce au fils de Don Juan VI. Oui. Donc, Pedro Primero, oui. Qui a décidé de... Voilà.
C'est lui qui a dit « je reste ».
Quoi ?
C'est lui qui a dit « je reste » et au fil...
Oui, oui, exactement. C'est lui.
Il ne voulait pas retourner... Voilà, il adorait le Brésil.
Mais il est retourné quand même. À un moment donné, il est retourné et puis il est devenu roi de Portugal, oui, ce qui est intéressant. Il est retourné. Oui, et aussi, après, bon, c'est son fils qui a pris le pouvoir après son départ.
Comment s'appelait son fils, vous savez?
Donc, Pedro II.
Ah, je crois qu'il était très intéressé par tout ce qui était science et technique.
Exactement. Il était extrêmement érudit.
Oui, il a beaucoup voyagé.
Extrêmement érudit et extrêmement francophile, en plus.
Et c'était le début de la révolution industrielle, la machine à vapeur.
Oui.
Donc là, c'était une période de grande avancée.
Il s'intéressait à la photographie. Oui, il lisait beaucoup, il connaissait plusieurs langues, et il aimait la France. Et en plus, quand il s'est exilé, quand il y a eu ce coup d'État, entre guillemets, avec le changement de régime, en 1889, donc il a dû quitter le pays et il s'est installé en France, à Paris.
Alors, j'ai plusieurs questions. Je profite de votre présence, Pedro Armando de Almeida Magalhães. Vous n'êtes pas que professeur de français, vous avez aussi vécu en France, vous allez tout nous raconter.
Oui.
J'ai plusieurs questions. Cette influence de la France qui est en déclin, pas que au Brésil.
Oui.
Là, par exemple, j'ai pu aller en Argentine. Oui. Il paraît qu'il y avait, jusqu'aux années 90, une alliance française
oui.
magnifique à Buenos Aires, qui est maintenant une banque sur l'avenue la plus connue, je ne sais plus où c'est, etc.
Oui.
Bon, c'est comme ça, la France perd un oui. petit peu de son, entre guillemets, soft power.
Oui.
C'est un processus, voilà, la nature a horreur du vide. Aujourd'hui, oui. ce sont plutôt les États-Unis qui oui. exercent une influence. Mais au siècle des Lumières, si je ne dis pas de bêtises, les penseurs ont inspiré un petit peu l'élite carioca
oui.
qui a même impulsé une espèce de mécanisme d'accession à l'indépendance et aussi à l'abolition de l'esclavage. Parce qu'au bout d'un moment, les intellectuels se sont dit on ne peut pas continuer comme ça à récolter le café, la canne à sucre avec de la main-d'œuvre, avec des esclaves qu'on a fait venir d'Afrique. Ça a été un long processus pas d'émancipation, mais peut-être de facteur de progrès pour le Brésil. Est-ce qu'on pourrait...
Oui, mais en fait, l'abolition de l'esclavage, il a eu lieu très tard, n'est-ce pas ? C'est, en quelque sorte, c'est une honte pour nous. À mon avis. C'était en 1888.
Oui,
c'est donc, c'était juste avant la proclamation de la République, oui. juste avant. C'était une année avant.
Alors, je comprends que les Brésiliens n'en soient pas particulièrement fiers. Après, ce qu'on peut dire, c'est que le Brésil est quand même de loin le plus grand pays d'Amérique du Sud. Donc, il fallait de la main-d'œuvre. Et puis, à l'époque, ça ne choquait personne.
Ouais.
Évidemment, aujourd'hui, c'est une honte. Et la France a participé au commerce triangulaire.
Oui.
On n'en tire absolument aucune fierté. Oui. Mais si on se porte au contexte de l'époque, oui. Ça choquait personne. On avait ces esclaves.
Exactement. Ça. Oui, ça ne choquait personne. Et on a, vraiment, et ça a duré longtemps. Oui, c'était incroyable. J'ai eu l'occasion d'aller. J'ai vu une exposition. C'était à Nantes et où il y avait une vidéo. Oui, c'était dans le château du duc de Bretagne.
Oui.
Et là-bas. C'était intéressant parce qu'on montrait la traite. Oui.
Ah bah oui, Nantes était un port négrier comme Bordeaux.
C'était incroyable parce que c'était une vidéo qui montrait le commerce, oui, et tout au long des siècles. Donc c'était affreux parce que c'était énorme. Et on voyait la vidéo et ça m'a beaucoup choqué. Et je trouve que c'était une vidéo qu'on devrait regarder.
Oui. Absolument, je suis d'accord avec vous. Alors là, on parlait un petit peu de l'influence des intellectuels du siècle des Lumières, mais plus récemment, au début du XXe siècle, à Rio, c'était assez chic d'aller chez le tailleur français commander des costumes, au restaurant qui était tenu par un Français. C'était un petit peu chic.
Oui, on faisait ça et on fait encore ça. En fait, ça continue. Si on regarde les influenceurs d'aujourd'hui, on voit que des gens qui aiment admirer la haute couture ou le prêt-à-porter français, même le maquillage, tout ça, tous les produits de luxe, on les aime. Oui, donc, on fait de la pub aussi, les influenceurs. Donc, on achète des vêtements, il y a des magasins, ici, des boutiques. Dans le quartier de Barra, par exemple, il y a des boutiques qui sont... Et alors, les influenceurs achètent et puis ils montrent ce qu'ils ont acheté. Oui, c'est... Bon. Et normalement, la France est associée au luxe.
Donc, l'image est assez positive. Et je dirais que la réciproque est vraie. C'est-à-dire que la France adore le Brésil.
Voilà. Oui, les choses de...
Ouais, c'est une relation qui va dans les deux sens. Hein.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Aligre FM 93.1.
Vous, Pedro, vous avez vécu en France.
Oui, j'ai vécu en France.
Alors, C'était à quelle période et vous étiez dans quelle région?
C'était tout d'abord quand j'avais 21 ans, j'ai vécu à Lyon. Et c'était de 1987 jusqu'à 1999. 89, pardon. 89.
D'accord.
Et 2 ans, en fait.
Oui. C'était une période un peu compliquée au Brésil. Alors, ça n'était plus déjà la dictature, c'était le retour à la démocratie.
Oui.
Mais c'était une période de très forte inflation.
Oui, très difficile, là.
Voilà, avec des taux d'inflation, plusieurs milliers de pourcents, les prix changeaient tous les jours.
Tous les jours.
La vie au quotidien était difficile. Oui. Qu'est-ce qui a motivé votre départ du Brésil?
Oui, ce qui m'a motivé, c'était en fait parce que à l'époque, j'étudiais le droit et je voulais étudier les lettres, oui, et donc et j'ai été reçu dans une université française. Je fais un examen qui s'appelait à l'époque dispense de baccalauréat.
D'accord.
Et donc j'ai réussi à cette épreuve-là. Donc, je suis parti. Mon père aussi était francophile, il parlait français, il l'aimait.
D'accord.
Ma famille aussi, elle était francophile. Ma grand-mère était francophile. Et donc, on a... francophone. Et mon père, francophile et francophone. Donc, on a... Donc, et à l'époque, je lisais beaucoup des romans en français, etc. Donc, j'ai dit, bon, je vais partir pour une période. Et donc, je suis parti.
Mais si je ne dis pas de bêtises, Pedro, le français était obligatoire à l'époque.
Oui, à l'époque, il y avait toujours l'offre du français. Le français était un peu partout, mais il y avait déjà en déclin, mais il y avait l'offre. C'était la deuxième langue. Hein. Et même avant l'espagnol, je crois. L'espagnol est arrivé avec le gouvernement de Lula et la politique du Mercosur. Alors, c'est à ce moment-là, on a pensé, parce qu'on a un point de vue plutôt utilitariste, pragmatique, en ce qui concerne les politiques langagières. On a tendance à croire qu'il faut enseigner les langues du commerce, les langues, un peu ça. Donc,
le français serait la langue du commerce?
Non, justement pas.
Ah, j'ai pas
c'est, en fait, à l'époque, on avait un on pensait différemment. Mm-hmm. C'était encore l'idée que la France était liée à la culture, etc. Et on continue à penser de cette façon-là. On n'a pas changé, mais disons qu'on croit plutôt que l'anglais est utile. Est utile parce que c'est une langue franche. Oui, et comme ça,
souvent, c'est
tout le monde parle anglais, donc il faut apprendre l'anglais.
C'est la langue de business.
Et puis, avec l'espagnol, c'était l'idée qu'il fallait intégrer le Brésil, parce qu'on ne pensait pas à l'espagnol. Hein. Et à l'époque, quand j'étudiais les langues étrangères, moi, je ne pensais pas apprendre l'espagnol. Hein. D'ailleurs, je n'ai pas appris l'espagnol vraiment.
Vous, c'est assez intuitif de parler espagnol. Oui.
En fait, la question, c'est qu'on comprend l'espagnol. Bon, moi, je comprends l'espagnol. Oui. Et c'est pour cette raison que je sais qu'il faut apprendre l'espagnol, hein, si on veut bien parler l'espagnol. Mais pour moi, je peux lire en espagnol, je peux comprendre l'espagnol. Hein. Ce n'est pas tellement compliqué.
C'est une langue un peu cousine. Hein.
Mais pour parler, alors là, non. Pour écrire, non. Non, ça ne marche pas.
Alors, apprendre. Oui. Pedro, vous avez évoqué le Mercosur. Nous, en Europe, nous avons bâti donc, l'Union européenne, qui a été d'abord la communauté économique européenne.
Oui.
Le Mercosur, c'est un petit peu la même inspiration, c'est-à-dire une libre circulation des personnes et des marchandises.
Oui.
Aujourd'hui, ça fonctionne, le Mercosur?
Ça fonctionne.
Donc, nous avons le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay,
le Paraguay.
Le Paraguay.
Je crois que c'est ça. Je ne sais pas si c'est le Chili. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas.
Donc, c'est un vaste espace économique.
Oui, un espace économique important, de toute façon. C'est important. Et c'est fort. Et on a signé un accord avec l'Europe et il y a des résistances. Mais la France, réouiste.
Vous ne
veut quoi, Pedro?
Dites-le.
les agriculteurs s'y opposent.
Oui. Et... Alors, en France, nous avons une petite agriculture comparée au Brésil, mais, oui. ça, mais au sein de l'Europe, oui. je crois que c'est la première.
Oui.
Donc, en fait, on, est quand même, on a un héritage agricole
oui, important. Important.
Et nous avons une agriculture qui est, selon un modèle subventionné
oui.
par l'Union européenne,
oui.
qui n'est pas sans poser de problème.
Oui.
C'est-à-dire une agriculture qui a recours à des produits, à des pesticides. Cela dit, contrairement... Alors, le Brésil, a, c'est la première agriculture au monde
oui.
Qui pose aussi toute une série de problèmes dans le sens où elle est très mécanisée, qu'elle crée assez peu d'emplois et que les OGM, les organismes génétiquement modifiés, sont autorisés.
Oui,
ce qui
les pesticides aussi.
Oui, voilà.
Il y a énormément de pesticides qui ont été autorisés. Pendant le gouvernement Bolsonaro, on a autorisé presque tous les pesticides, non, mais c'était incroyable, c'était affreux, à mon avis.
Bah, disons, plus l'ancien gouvernement n'avait pas beaucoup de préoccupations environnementales.
Aucune préoccupation. Voilà, aucune, non. Ils avaient une préoccupation, mais ils avaient intérêt à développer l'agriculture mécanique et mécanisée. Voilà, ils voulaient du profit. Donc, on a développé, je crois que le Brésil est connu pour la technologie agricole aussi. Il y a non seulement la technologie dans le domaine de l'aviation avec un Embraer,
sure.
qui est maintenant, ça devient de plus en plus. Bah, l'Embraer, c'est une compagnie qui devient de plus en plus forte.
C'est un peu le troisième
oui.
constructeur avec Airbus et Boeing.
Exactement.
Ça devient, des avions de bonne qualité.
De bonne qualité, plus petits.
Oui, ce sont des petits.
C'est un marché qu'on connaissait, qu'on a développé. Et oui, on a réussi à trouver ce créneau, n'est-ce pas?
Ouais.
Donc on a.
Vous fabriquez des hélicoptères
oui, aussi.
Vas-y.
Donc on a.
Alors, ce que vous disiez, Pedro, sur l'agriculture, effectivement, ouais. l'agriculture brésilienne s'est beaucoup améliorée parce que les terres sont davantage fertiles.
Oui.
En fait, le Brésil est très vaste.
Est très vaste.
Et les terres n'étaient pas particulièrement fertiles.
Non.
Alors, il se trouve que ça pousse parce qu'il fait quand même chaud et qu'il pleut et qu'il y a de l'eau. Mais les ingénieurs agronomes brésiliens ont réussi à augmenter la fertilité des sols.
Donc, on a développé des technologies agricoles reconnues dans le monde. Donc, on est connu pour la technologie de l'agriculture et aussi dans le domaine de l'aviation. Donc, ce sont les deux domaines, je crois, majeurs, si je ne me trompe pas.
Oui. Et puis, il y a quand même un climat qui permet qu'au Brésil, quand oui. nous, en Europe, on va faire une récolte par an, eh ben, vous pouvez faire, par exemple, deux récoltes par an de raisins ou d'oranges.
Oui,
ou
oui c'est quoi. Donc, oui, oui.
C'est quand même...
Exactement.
Dans Brasil Alto Astral, nous sommes le 14 décembre. Je suis en compagnie de Pedro Armando de Almeida Magalhães. Vous êtes un francophile, vous êtes professeur de français, vous avez étudié, vous avez vécu en France. Est-ce que, Pedro, je peux dire que vous venez d'un milieu érudit ?
Oui, je viens d'un milieu érudit, tout à fait. Mon père, il était avocat, ma mère aussi, elle était chercheuse.
Ah oui.
Donc, elle travaillait dans une fondation connue ici, c'est la fondation Rui Barbosa.
Ah oui.
Et c'était un érudit, Rui Barbosa, c'était un juriste.
On peut visiter sa maison à Rio.
Sa maison, donc
c'est gratuit.
Oui, elle y a travaillé, elle a travaillé 50 ans. Là-bas, c'est qui est bizarre, 50 ans, c'est énorme.
C'est une belle carrière.
Une belle carrière. Donc, elle a commencé très jeune et elle a travaillé jusqu'à l'âge de 80.
Ah
oui.
Hein. Ah, elle était en activité.
En activité. Ah, donc, elle a pris sa retraite, mais elle a voulu continuer. Donc, on l'a engagée. Oui, parce qu'elle voulait.
Elle était passionnée.
Elle était passionnée.
D'accord.
Oui. Donc, elle a beaucoup travaillé là-bas. Et donc, voilà. Et mon père, il appartient à une famille. Qui était assez importante, oui. Et
importante dans quel sens?
Dans le sens politique.
Ah oui?
Aussi, oui. Et aussi culturel, disons. Parce que mon arrière-grand-père était un médecin important.
D'accord.
Et en fait, il s'appelait comme moi, plus ou moins, parce qu'il s'appelait Pedro Diomedes Magalhães. Et à l'époque, il est devenu professeur à l'Université fédérale de Rio, professeur de médecine. Oui, mais il est mort très jeune, à l'âge de 40 ans.
Ah oui.
Et lui, il était l'un des plus, à l'époque, même jeune, il était l'un des plus grands médecins du pays. Et donc, c'est une famille importante. Et du côté de ma grand-mère paternelle, aussi, c'est une famille importante. Il y a un ministre des Affaires étrangères, Raul Fernandes.
D'accord.
Il était deux fois ministre.
À quelle période, à peu près, vous savez?
C'était au gouvernement d'Ultra. C'était au milieu du XXe siècle. Et puis, il est redevenu ministre après. Et je ne rappelle pas très bien quand, mais il est redevenu ministre. Donc, c'est quelqu'un d'important. Il était ambassadeur de l'ONU, en plus, ambassadeur du Brésil à l'ONU.
Alors, c'était avant la création de Brasilia?
Avant la création de Brasilia. Donc, parce que la capitale était Rio, donc il vivait ici, dans la capitale. Et si j'avais une grand-tante qui était journaliste.
D'accord.
Donc, mais elle s'intéressait à la société, donc c'était ce genre de journaliste.
À la société, vous voulez dire aux...
Élégante.
Ah oui, d'accord. Journaliste, on dirait un peu... je ne sais pas si on dit journaliste mondain.
Exactement.
D'accord.
Donc, mais elle était assez cultivée et son mari était américain, nord-américain, qui travaillait pour la banque Bank of America. Donc, c'était des gens qui étaient cultivés, voilà. Donc, la famille de mon père est assez cultivée. La famille de ma mère aussi, mais moins que la famille de mon père. La famille de ma mère, elle vit dans l'état de Bahia.
Oui.
C'est ma mère qui a voulu s'installer ici, elle a voulu vivre ici. Il y avait toute une histoire concernant l'éducation des femmes, parce que ma mère, elle a été invitée par une tante qui voulait étudier. Donc elle est venue, elle a décidé de vivre à Rio parce qu'elle ne pouvait pas étudier dans l'état de Bahia.
À l'époque, ça n'était peut-être pas aussi courant
qu'une femme. Oui, voilà, c'était compliqué. Donc elle s'est disputée avec son frère aîné qui ne voulait pas qu'elle étudie. Donc, ma grand-tante, hein, oui, elle s'est disputée. Donc, elle a décidé de venir vivre à Rio. Elle est devenue professeure dans le collège Paul Segonde. Oui, et donc, elle a invité ma mère, qui, elle aussi, aimait lire, aimait étudier, vivre avec elle.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Nous sommes avec Pedro Armando G. Almeida Magalhães. Pedro, une question, vous parlez absolument parfaitement le français. Lorsque je vais, par exemple, voir une exposition, lorsque je vais dans un musée au Brésil, je trouve que, il y a beaucoup d'offres gratuites, il y a vraiment une offre publique,
oui.
Tout comme il y a des chaînes de télévision publiques,
oui.
Culturelles au Brésil qui sont d'un bon niveau.
Oui.
En revanche, je me désole un petit peu que...
Oui.
Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans les musées et ces télévisions qui sont des télévisions culturelles, en fait, elles ne sont pas très regardées. Est-ce que vous partagez ce jugement?
Oui, je partage absolument ce jugement.
Alors, je vais donner un exemple. Il y a un an, j'étais ici, je vais au Museu Histórico Nacional, je connaissais déjà. C'est juste à côté du petit aéroport domestique.
Oui.
Je trouve que c'est un des plus beaux musées de Rio, c'est magnifique, c'est gratuit.
Oui.
Et il y avait juste quelques groupes de scolaires, quoi, d'enfants.
Oui,
je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est en accès libre. Même les gens qui n'ont pas des moyens financiers importants peuvent y accéder.
Oui.
C'est très riche. Les collections sont très riches, mais ce n'est pas très fréquenté.
Oui, tout à fait. Il y a ça. Mais parfois, quand il s'agit d'un artiste important, connu, célèbre, et on diffuse bien l'exposition. Donc, on arrive à... Il y a des queues. Oui, devant les.
D'accord.
Oui, ça arrive, hein, au centre culturel Banque du Brésil, et ça arrive parfois des queues. Oui, ça dépend de l'artiste, hein,
Très bon
parfois.
centre culturel, hein.
Oui,
Centre de
c'est
Rio.
excellent. Je crois que c'est l'un des meilleurs. Hein. Oui.
Bel endroit avec toujours des
Oui,
collections,
des
enfin
collections
des
d'avant-garde.
expositions
Oui.
temporaires. Alors, justement, Pedro, vous allez nous dire qu'est-ce qui va se passer cet après-midi, on est dimanche,
Oui.
à propos de culture, sur la plage de Copacabana, au poste 5.
Donc, il y aura une manifestation, oui, politique, hein, en fait, contre l'amnistie, parce que, en fait, là, les
Contre
députés,
l'amnistie.
contre l'amnistie, hein,
D'accord.
parce que les députés ont voulu diminuer la peine des gens qui ont essayé de faire le coup d'État, oui, donc, là,
Alors,
ils.
vous faites référence à l'invasion du, j'allais dire du Capitole, pas du
Non,
Capitole,
pas de
mais
capital.
du Parlement de Brésil.
Parlement de Brésilien, exactement, du Congrès national.
Oui.
Donc, on a essayé d'envahir, donc, on a cassé des objets anciens et une
Absolument.
belle horloge
Ça a été un
de la
scandale.
période impériale
Oui.
aussi.
Il y a des gens qui ont fait
Oui.
caca sur c'est
Oui.
intelligent ça, hein, sur la ligne tapisserie. Bon,
Oui.
voilà. Mais nous avons suivi ça
Oui.
depuis la France. J'en
Alors.
ai parlé dans mon programme. Il me semblait que le Sénat, justement, avait renoncé à modifier la Constitution. Donc, il me semblait que le danger était écarté.
Oui, oui.
Apparemment, ça n'est pas le cas.
Apparemment, ce n'est pas le cas. En fait, il y a ce qui est arrivé, c'est que il y a une dispute, hein, et les pouvoirs se disputent. Voilà, il y a ces disputes à l'intérieur. Il y a le pouvoir judiciaire qui cherche à régler les choses, et en même temps, il y a les pouvoirs législatifs qui essayent de. Même les députés contre les sénateurs. Donc, il y a une tension. Et en ce moment, il y a aussi l'extrême droite qui essaye de prendre le dessus et essaye de.
Alors,
Oui.
effectivement, comme il y a des parlementaires qui
Oui.
étaient complices
Oui.
de cette
Oui.
intervention,
Oui.
bah, ils ont essayé de modifier la constitution brésilienne
Oui.
pour s'exempter de poursuites ou en tout cas de se préserver.
Oui, c'est
Et
vrai.
résultat, bah, les Brésiliens sont descendus dans la rue et on a les plus grands artistes tels que Gilberto Gil, Caetano
Oui.
Veloso, Paulinho
Oui.
da Viola, Djavan,
Oui.
qui. Parce qu'à Rio, il faut toujours que ça se fasse en musique, puis
Oui.
on a décidé de faire des manifestations en musique. Ça, c'est génial quand même.
C'est génial. Et Chico Buarque qui
Ah oui,
prend le rôle
non, Chico Buarque,
important.
absolument, j'ai
Chico
oublié.
Buarque joue un
Oui.
rôle important avec Caetano, les deux. Et Chico Buarque qui. C'est un intellectuel, hein. Il écrit des romans, il écrit des chansons. Donc c'est quelqu'un de grand. Voilà.
Ah oui, et puis ça a été, pendant la période de la dictature militaire, l'artiste le plus censuré du Brésil.
Oui, tout à fait. Il est le fils d'un grand sociologue. Oui,
Serge Bois.
Serge Buarque de Holanda, qui a écrit Les Racines du Brésil. C'est un livre très important pour nous, comprendre la culture brésilienne et les mentalités brésiliennes. Donc, il a écrit aussi une collection d'histoire du Brésil aussi. Et Chico, c'est un grand artiste, hein, en ce moment.
Chico
Chico
Buarque,
Buarque,
ouais. Et puis,
oui.
il est tellement aimé, il est tellement respecté au
Respecté,
Brésil,
oui.
sauf par une petite minorité qui se situe très à droite de l'échiquier politique,
Oui,
qui trouve qu'il est un peu trop gauchiste.
et normalement, les gens qui sont plutôt, qui soutiennent les partis de l'extrême droite, ils n'aiment plus les artistes qu'ils aimaient. C'est un peu bizarre. Il y a eu un
Oui,
changement.
vous avez raison.
Oui, c'est étrange. Moi-même, je connais des gens qui ont changé d'opinion. Oui, même, c'est étrange, parce que
C'est vrai
ils
ce que vous
appréciaient le.
Oui, c'est vrai ce que vous
Mais
dites.
les artistes, maintenant, ils n'apprécient plus ces
Oui.
artistes parce qu'ils affirment qu'ils sont d'extrême gauche, alors que ce n'est pas vrai, parce qu'ils ne trouvent pas qu'ils sont d'extrême
Bah,
gauche.
en plus,
Ouais.
je trouve qu'au Brésil,
Ouais.
vous avez, alors, quand je
Oui.
dis vous, c'est une
Oui.
minorité, hein,
Oui.
mais une espèce de hantise du communisme que je trouve vraiment risible. Moi, j'ai envie de rire.
Oui, oui,
parce que je me souviens, juste avant l'élection de Jair Bolsonaro, j'étais précisément à Copacabana, c'était en 2017, je me promenais.
Oui.
Et puis, il y avait donc c'était avant les élections présidentielles.
Oui.
Une femme qui chantait très mal, d'ailleurs. C'était une cacophonie abominable.
Oui.
Et elle appelait à Dieu. Donc, elle disait, oui, Dieu doit nous protéger du danger du communisme. Et j'avais envie d'éclater de rire et de lui dire, mais madame, pour votre information, le communisme, ça n'existe plus. Pas sauf en Corée du Nord. Je ne sais même pas si c'est du communisme et ce qu'il en reste à Cuba. Mais je ne vois pas le danger du communisme. Pour moi, c'est une chimère.
En fait, c'est une... Ils sont hantés par le communisme. Et en fait, c'est à cause de la politique nord-américaine, je crois, pendant les tours de la dictature.
Absolument.
Mais il ne faut pas oublier que la République est étroitement liée à l'armée. Oui, il ne faut pas oublier ça. La République brésilienne, elle a été forgée par l'armée. Oui.
Donc, c'est l'armée qui... en 1964, a favorisé le...
Oui, tout à fait.
Avec l'aide des Américains.
Exactement.
Ça n'est pas prouvé scientifiquement, mais on...
Oui, mais on le sait que Washington est intervenu. Elle avait intérêt aussi à ce qu'on diffuse ses idées. Il y a le Marc Arthur, n'est-ce pas, aux États-Unis, qui a persécuté des intellectuels aux États-Unis. Et bien sûr qu'il y avait tout un projet contre les gens qui les intellectuels de gauche.
Le communisme était passible de sanctions.
Oui.
Et je trouve que le modèle de la dictature militaire du Brésil est singulièrement différent de ce qu'ont pu connaître d'autres régimes. Je fais référence à l'Argentine ou je fais référence au Chili ou au Portugal ou en Espagne, qui étaient des dictatures d'un seul homme.
Oui.
Alors que le modèle qu'a pris le Brésil, c'était un système...
Un système
de privation de liberté avec des militaires, mais il y a eu plusieurs présidents, il y en a eu cinq. Donc ça n'a pas été la dictature d'un seul homme, mais c'était vraiment un modèle de société.
Un modèle de société, tout à fait. Et c'est quelque chose qui risque de ressurgir de temps à autre. Donc on a toujours cette menace, entre guillemets. Et...
Ah mais vous savez, Pedro, moi il y a une phrase que j'aime beaucoup. La démocratie ne s'use que si l'on ne s'en sert pas.
Oui.
Qui est une déformation d'un slogan pour des piles.
Oui.
On disait ne s'use que si l'on s'en sert.
Oui.
Qu'à la démocratie, si, s'use si on ne s'en sert pas.
Oui.
C'est pas mal ça.
Je suis d'accord. Oui, entièrement d'accord.
Alors. Pedro, on va parler de votre relation avec la langue française.
Ah oui.
J'ai quand même deux questions.
Oui.
Est-ce qu'on peut dire que... Alors, je pense que vous êtes... Vous avez des souvenirs de la dictature ou vous étiez trop jeune?
Vous avez des souvenirs de la dictature.
Alors, est-ce qu'on peut dire que, encore une fois, comparé à ce qu'a connu le Chili, le Portugal ou l'Argentine... Bon, ça n'a pas été la pire dictature du XXe siècle non plus. C'est-à-dire que le Brésilien qui n'était pas un opposant direct, qui n'était pas un intellectuel qui s'exprimait, pendant la dictature, il n'a pas eu de problème.
Oui, c'est vrai.
On est d'accord.
Oui, je suis d'accord.
Alors, deuxième chose, Pedro, moi, il y a quelque chose qui me heurte un petit peu.
Oui.
C'est que, par exemple, si on prend le pont de Quirio pour aller en face...
Oui.
À Niterói, d'ailleurs c'est très joli.
Oui.
Bah, y a quand même la plaque avec le pont et le nom, c'est Koch et Silva, qui est un des pires dictateurs.
Oui.
Pourquoi est-ce qu'on ne retire pas cette plaque?
Ça, je ne sais pas. C'est un peu compliqué parce qu'on voit des statues des militaires un peu partout, n'est-ce pas?
C'est vrai.
Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, ce sont les gens du début de la République. Hein. Ce sont eux qui ont été présidents au début de la République. Donc, on a des tas de personnages importants militaires. Et donc, ce sont les héros, oui.
Entre guillemets.
Entre guillemets, oui. Getúlio Vargas aussi, c'était un personnage ambigu.
Alors, oui.
Très ambigu.
Alors,
dictateur.
Alors, vous dites dictateur, carrément. Moi, j'aurais dit populiste.
populiste, dictateur, mais en même temps, il a joué un rôle important pour les droits des travailleurs. Sans aucun doute.
Ah bah oui, c'était un populiste.
Donc c'était essentiel pour nous.
Par contre, il n'aimait pas trop l'opposition. Hein.
Non, il n'aimait absolument pas l'opposition. Il a persécuté, il ne faut pas oublier, même, il y a eu un moment où il s'entendait bien avec les nazis. Donc, oui, et c'est lui le responsable de la persécution de Olga Benario, lui qui était l'église. Olga Benario, c'était une juive qui s'est mariée avec Luis Carlos Prestes, qui était le plus grand chef du mouvement communiste au Brésil, du Parti communiste au Brésil. Et donc, il a aidé les nazis. Donc, elle est morte dans un camp de concentration au OII. Et donc, elle a accouché d'un bébé. Elle est devenue historienne, cette femme. Elle est devenue intellectuelle, professeure à l'Université fédérale.
Donc elle a survécu.
Elle a survécu. La fille de Prestes e Olga Benário. Elle a survécu.
D'accord.
Oui, c'est une femme intellectuelle, une professeure. Je crois qu'historienne, si je ne me trompe pas.
Alors, c'est vrai que pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Brésil a, on va dire, de notre point de vue, n'a pas forcément bien choisi son camp. Vous faisiez référence à Getúlio Vargas.
Oui, mais en fait, c'était ambigu parce que pendant une période, on avait l'impression qu'il allait du côté des nazis. Mais puis, il a changé d'opinion.
Il y a eu
un don. Et puis, on a lutté avec les troupes en Italie pour la libération. Hein,
une volte-face.
Contre les nazis. Hein.
Alors, vous évoquiez Getúlio Vargas qui a fini par se suicider, qui était un populiste, mais aujourd'hui, l'avenue la plus large dans le cerf de Rio de Janeiro s'appelle l'avenue
Getúlio Vargas.
Et quand je parlais de la plaque de ce pont,
qui est
très long,
oui.
C'est une belle balade. Eh bien, quand on va à la Cobao, qui est un peu un marché à Botafogo, qui est assez sympathique, on peut manger, on peut acheter des fruits, des fleurs, eh bien, il y a une plaque aussi qui dit que cette Cobao, c'est coopérative brasileira de alimentos. C'est un peu comme des halles qu'on aurait, nous. Eh bien, il y a la plaque inaugurale, parce que la Cobao a été inaugurée par le général Geisel, qui était le ministre de la Faserne, le ministre de l'Agriculture, qui ensuite a été un des pires. Alors, ce n'était pas le pire, mais enfin bon.
L'un des pires, ouais. C'est vrai. C'était l'un des pires.
Geisel. Un des pires dictateurs.
Dictateur.
Eh bien, il y a toujours la plaque, quoi.
Oui.
Bon.
Voilà.
Ça
coïncide un peu à une époque de croissance économique incroyable.
Oui.
La période Geisel. Voilà.
Geisel, c'est lui qui... c'est la fin, c'est un peu la fin du pire. C'est-à-dire qu'il est arrivé au pire. Et puis, il est arrivé juste après Médici, si je ne dis pas de bêtises.
Non, je vois que Médici, c'est l'inverse.
Alors c'est un des pires. Parce que
je ne parle pas.
Parce que c'est à partir de Médici.
Je me trompe.
Non, mais...
je me trompe. Moi, c'est drôle.
Alors aujourd'hui, c'est dimanche, on est le 14 décembre, je suis avec Pedro Barnan de Diomeda Magalhães. Vous êtes donc un carioca érudit francophile francophone. Vous avez vécu en France. Est-ce que sinon, vous avez toujours habité à Rio ou est-ce que vous avez aussi habité dans d'autres endroits au Brésil?
Non, seulement à Rio.
Donc vous êtes vraiment le carioca.
Le carioca, oui. J'ai vécu à Paris en 2006, mais c'était pour une période de 6 mois. J'ai fait un stage doctoral à Paris. Seconde nouvelle.
Très bien.
Seconde nouvelle.
Et puisque vous vous intéressez particulièrement à la littérature, quelle est votre spécialité, on va dire?
Ma spécialité, c'est la littérature du XXe, et notamment la Marguerite Yourcenar. Donc, c'est plutôt ça.
Qui est une... J'ai l'impression qu'il est une auteure qui est assez respectée au Brésil.
Oui, assez respectée au Brésil. Elle était best-seller à l'époque dans les années 80. Maintenant, pas tellement. Oui, il y a eu une sorte de changement. On s'intéresse plutôt à la littérature francophone, entre guillemets.
D'accord.
Oui, donc on s'intéresse à la littérature des Antilles, ou des exilés.
J'ai l'impression que c'est un peu le cas aussi en France, hein. Il me semble, hein.
Il y a eu un changement, ou l'autofiction, par
Oui.
exemple. Ça aussi, ça intéresse.
Alors, par exemple, en France, il y a des bibliothèques Marguerite Yourcenar, il y a des
Ouais.
écoles Marguerite
Ouais.
Yourcenar, mais j'ai l'impression qu'elle est un petit peu passée de mode, entre guillemets. Pourquoi
Oui.
est-ce que vous, c'est une auteure qui vous intéresse en particulier, Pedro?
Parce que ce qui m'intéresse chez Marguerite Yourcenar, c'est la façon dont elle raconte l'histoire. Bon, c'est par le moyen de la fiction, elle utilise la fiction pour raconter l'histoire, donc ça me plaît énormément. C'est une écrivaine érudite, donc elle aimait les langues anciennes, le
Oui.
latin, grec. Donc je l'admire beaucoup.
Oui.
Et je trouve qu'elle est aussi indépendante. Elle est...
Oui, je pense qu'elle était un peu en avance sur son
Oui,
époque.
elle était en avance. Elle ne se souciait pas de l'opinion des autres. Donc elle
Ah,
était... Ça m'a...
ça c'est intéressant ce que vous venez de
Oui.
dire, Pedro. Est-ce que vous m'autorisez à faire un petit parallèle avec une auteure centenaire
Oui.
brésilienne très respectée qui
Oui.
s'appelle Clarice Lispector?
Oui, tout à fait. Oui, Clarice Lispector, elle est aussi une écrivaine très importante et très différente. Et qui aussi ne se souciait pas de l'opinion des
Oui,
autres. C'était
c'est
pareil.
assez.
Mais le style n'est pas le même. Les styles ne sont pas les mêmes.
D'accord.
C'est complètement différent, je crois. C'est assez différent.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Alors,
Oui.
Pedro, un peu de fiction. Je
Oui.
suis président du Brésil.
Oui.
Je suis à Brasilia. Je vous nomme ministre de la Culture.
Oui.
Quelles sont les premières mesures que vous décidez?
Les premières mesures que je déciderai, tout d'abord, j'essayerai de changer un peu la politique linguistique du pays. Parce que je trouve qu'il y a une imposition, on impose l'anglais comme seule langue étrangère à être enseignée dans les écoles. Je trouve que c'est mauvais. Il faut comprendre quelle est la demande du public, quels sont les réels besoins. Oui, et aussi diffuser la culture. Il serait intéressant de penser aussi les universités, changer la façon dont on structure les cursus dans les facultés. Donc, changer un peu les systèmes. Hein. Mais
D'accord.
ça, au niveau de l'éducation, par rapport à l'éducation, mais pas.
Alors, il me semble qu'il y a des très bonnes universités au Brésil.
Oui, il y en a des très bonnes universités. Et oui, il y a. Et oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Mais la culture aussi, alors là, en ce qui concerne les événements culturels, donc je crois qu'il faudrait diffuser plus et aider peut-être les artistes un peu plus. Je crois que ce serait intéressant.
Est-ce que vous avez une opinion sur le travail qu'est en train de faire l'actuelle ministre de la Culture, qui est également chanteuse, qui s'appelle Margareth Menezes?
Je trouve que son travail, il est bien. En fait, ce n'est pas son domaine, s'occuper de la politique linguistique. Hein. C'est plutôt le ministre de l'Éducation qui doit s'en occuper. Et alors là, c'est un ministre de droite, si je ne me trompe pas. C'est un homme de la droite. Donc, ce
Le
n'est pas
ministre de
un...
l'Éducation?
Oui.
Mais comment peut-il y avoir un ministre de droite alors que le président est de gauche?
En fait, c'est un accord. Et on ne peut pas gouverner. Lula, il sait qu'il faut distribuer pour qu'il puisse gouverner, il faut qu'il distribue les postes. Donc, parfois, il doit choisir. Donc, il a préféré privilégier la culture à l'éducation.
Alors, ce qu'il faut préciser, Pedro, vous avez
Oui,
raison, c'est que
n'est-ce
le
pas?
président Lula n'a pas la majorité
Non, il n'a pas la
au
majorité
Sénat.
au Sénat ni au Congrès. Donc, c'est grave. Hein. Donc, il fait de son mieux. C'est quelqu'un de... Je l'admire beaucoup parce qu'il est très intelligent et c'est quelqu'un de très préparé pour le poste.
Autodidacte.
Autodidacte.
Ça, c'est assez
Très
rare.
expérimenté. Il connaît... il sait négocier, il sait dialoguer.
Oui, il est très charismatique.
Il est très charismatique. Oui, tout à fait.
Il est capable d'haranguer des foules.
Exactement. Donc, c'est quelqu'un de très habile politiquement. Très habile. C'est exceptionnel. Je trouve qu'il est un peu surdoué dans ce domaine-là. Il est vraiment surdoué.
Pedro Armando Giammeda Magalhães, est-ce que vous avez remarqué que vous évoquez le président Lula, qu'il a une relation privilégiée avec notre président Emmanuel Macron?
Oui, c'est drôle.
Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose de façade ou que c'est quelque chose d'authentique?
Je trouve que c'est authentique. Oui, c'est authentique. Bien que le président Macron n'est pas, disons, oui...
Pas du tout le même...
Non, absolument pas. Mais je trouve que c'est authentique et c'est très bien. Qu'ils s'entendent bien.
Bah, en tout cas, ils sont amis.
Et je trouve drôle parce que c'est comme... Et on a l'impression que c'est un couple amoureux.
Oui, non, mais ils font des blagues même.
Ils font des blagues. La main dans la main.
Oui, oui.
Ah oui, c'est drôle.
C'est assez insolite.
C'est insolite.
Moi, j'ai aimé faire votre rencontre, Pedro. Est-ce que vous pourriez me suggérer quelques musiques de votre choix qu'on va passer dans cette émission de radio?
Et moi, La chanson que je suggère, c'est Calice du Chico Buarque de Holanda.
Ah.
Et A Banda aussi de Chico Buarque de Holanda.
Si vous me permettez, Pedro, Calice, petit jeu de mots, est-ce que vous pouvez expliquer?
Calice, c'est un jeu de mots parce que c'est calice et c'est aussi tais-toi. Donc, c'est en même temps tais-toi,
ouais.
Et le verbe calarsi, calice.
Alors,
c'est le locatif deuxième personne du singulier, ou bien ça est aussi calice, c'est un mot homophone, lui, qui désigne en fait le calice.
Voilà,
calice.
La coupe, quoi.
La coupe d'Église,
voilà.
Donc l'Église. Et c'est un juron au Québec, n'est-ce pas?
C'est vrai.
En plus, mais ça n'a rien à voir avec. Non, ça ne marche pas pour nous, en fait.
Calice de Christ,
oui.
On dit au...
Oui.
Au Canada.
Pour eux, c'est un juron.
Alors, afasta de mi et se calici.
Oui, c'est éloigne-moi.
Se calice.
Donc, c'est, en fait, on parle de la dictature, on parle de la répression, on parle de la censure. En même temps, c'est une chanson qu'il a créée, Chico Buarque, pour parler de la censure. Et en même temps, les militaires n'ont pas compris la chanson.
Donc, ils n'étaient pas tous très fins, parce que, non, mais vous avez raison, il faut préciser que à cette période-là, il y avait le bureau de la censure, donc on commençait, avant d'enregistrer, par déposer au bureau de la censure les paroles, et puis la chanson était soit autorisée, soit interdite, et Chico Buarque était assez malin, il a réussi à dribbler la censure plusieurs fois, et que ses chansons soient a posteriori interdites.
Exactement.
C'est intéressant. Est-ce que je mets la version en duo avec peut-être Milton Nascimento?
Oui, c'est possible, parce que Milton, il est excellent aussi. C'est un grand musicien. Bon,
magnifique. Proche,
magnifique. Ouais.
Malheureusement.
Et récemment, Léo Borges est mort.
Ouais.
Et qui intégrait le Club d'Ashkin. C'est un groupe formidable de Minas. Oui, qui
c'était cette famille.
Qui créait toute l'ambiance de Minas.
Ménage à l'âge.
Donc, et aussi, bon, voilà.
Milton Nascimento, qui n'est pas en très bonne forme, malheureusement.
Non.
Il est un petit peu âgé.
Il est âgé, tout à fait.
Alors, nous allons diffuser Cal, ici, de Chico Buarque, et Abanda.
Abanda, oui.
La fanfare.
La petite fanfare. La petite fanfare, parce que c'est une chanson qui me plaît énormément, ça me rappelle mon enfance, parce que j'écoutais, je chantais ça, et oui, avec mes cousins quand j'étais à la campagne, dans la maison de mes grands-parents,
à Cernel. Dans le premier succès de Chico Buarque. À un festival.
Son chanson.
Il a gagné avec A Banda. Ex aequo d'ailleurs avec, je crois, Gérard Louvandré, si je ne dis pas. Et c'est même Chico qui a dit au juge, non mais Gérard Louvandré, c'est très bien, moi je veux partager mon premier prix. Si, je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas. Et Abanda a fait, ça a été une bombe dans tout le Brésil, toutes les radios chantent.
Les radios, oui.
Avec la jolie... qui est morte.
Nara Leon, Nara Leon, oui, Nara Leon. Tout à fait.
Ils étaient beaux les deux. Hein. Qu'est-ce qu'ils étaient beaux. Ça, c'était vraiment le glamour. C'était un couple magnifique.
Oui, un couple magnifique.
Bon, ils n'étaient pas en couple du tout, d'ailleurs. Ils sont que de chanteurs. Bah, merci du temps où nous avez consacré, Pedro, parce qu'aujourd'hui, c'est dimanche. C'était intéressant de faire votre connaissance. Merci beaucoup.
Ah oui, moi, je te remercie aussi. Et je vous remercie aussi.
Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado. Se na calada da noite eu me dano. Quero lançar grito desumano. Que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento. Na arquibancada pra qualquer momento. Ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Gorda porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta. Essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo. De que adianta ter boa vontade? Mesmo calado, peito, resto da cuca. Dos bêbados do centro da cidade.
Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue.
Talvez um mundo não seja pequeno. Nem seja vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado. Quero morrer no meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça.
Minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel. Me embriagar até que alguém me esqueça.
Aligre FM 93.1.